VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Timothée Donongmaï et Morgane Guériec en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du mardi 23 août 2016. Au sommaire ce soir.
Tournée africaine de John Kerry, le secrétaire d'État américain, était dans le nord du Nigeria aujourd'hui. Il a félicité l'armée dans sa lutte contre Boko Haram, tout en mettant en garde contre les répressions excessives.
République démocratique du Congo, le mot d'ordre de ville morte lancé par l'opposition n'a été que partiellement suivi à Kinshasa.
Inondation historique en Louisiane, ici aux États-Unis. Le président Barack Obama aujourd'hui au chevet des populations touchées.
Ne manquez pas notre segment sur la présidentielle américaine.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
Lutte contre Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Le chef de l'organisation djihadiste, Aboubakar Shekau, a été sérieusement blessé lors d'un raid aérien. Et c'est du moins ce qu'affirme l'armée, précisant que plusieurs commandants du groupe islamiste ont également été tués. Cette annonce qui coïncide avec une visite de John Kerry dans le nord du Nigeria aujourd'hui.
En visite dans le nord du Nigeria, donc, le secrétaire d'État américain John Kerry a félicité l'armée nigériane dans sa lutte contre Boko Haram, mais aussi mise en garde contre les abus contre les droits de l'homme. Claire Morin-Gibourg.
John Kerry s'est exprimé après avoir rencontré le sultan de Sokoto, l'autorité religieuse de l'extrême nord du Nigeria. L'extrémisme ne peut pas être vaincu grâce à la répression ou la peur. La répression entraîne la défiance et engendre des terroristes, a déclaré le secrétaire d'État américain, en soulignant l'importance de valeurs comme l'intégrité, la bonne gouvernance, l'éducation et le respect des droits de l'homme pour un combat efficace contre la violence extrême. De nombreuses ONG ont à plusieurs reprises accusé les troupes nigérianes d'avoir usé d'une force excessive ou d'avoir commis des crimes extrajudiciaires contre des supposés insurgés de Boko Haram. John Kerry a néanmoins assuré que Washington continuerait sa coopération militaire et humanitaire avec le Nigeria. Début août, l'USAID a annoncé une enveloppe supplémentaire de 37 millions de dollars pour répondre à la grave crise alimentaire causée par l'insurrection.
Le Nigeria, toujours, une foule de musulmans en colère a tué 8 personnes dans le nord du pays. Ils ont mis le feu à la maison d'un musulman qui avait tenté de secourir un étudiant chrétien accusé de blasphème.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, 2 personnes ont été tuées à la machette à Kiteya, près d'Oicha, dans la région de Beni. D'après l'armée, l'incursion des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF, a également fait 5 blessés et 7 maisons brûlées.
En RDC toujours, l'appel de l'opposition a observé une journée ville morte ce mardi sur l'ensemble du pays, a été partiellement suivi à Kinshasa, mais ignoré dans d'autres grandes villes. Bagessikoura.
À Kinshasa, à la mi-journée, sur le boulevard du 30 juin, le centre des affaires de la capitale congolaise, la circulation était fluide. Selon l'AFP, les bouchons de l'heure de pointe n'ont pas été constatés. Au grand marché de Kinshasa, 2 magasins sur 5 ont ouvert, mais les vendeurs se plaignent de la rareté des clients. Selon des journalistes de l'AFP, à Lubumbashi, deuxième ville du pays dans le sud-est, les activités se sont déroulées normalement, tout comme à Beni, Goma et Bukavu, 3 villes de l'est, ainsi qu'à Kisangani, dans le nord-est. L'appel à une journée ville morte a été lancé par le Rassemblement. C'est une coalition politique réunie autour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi afin de réitérer son rejet du facilitateur désigné par l'Union africaine pour le dialogue politique national en RDC, l'ancien premier ministre togolais Edem Kodjo.
Le Soudan et le Soudan du Sud se sont mis d'accord pour proroger leur accord pétrolier. En revanche, les 2 pays voisins ne sont pas entendus sur les termes financiers. Lorsque le Soudan du Sud a fait sécession du Soudan en 2011, ce nouveau pays a accepté de payer à Khartoum une redevance pour l'utilisation des structures pétrolières et des pipelines du Soudan afin d'exporter son pétrole.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Barack Obama est aujourd'hui en Louisiane afin de constater l'ampleur des dégâts causés par les inondations records qui ont frappé cet État du sud-est des États-Unis la semaine dernière. Jacques Aristide.
Le locataire de la Maison-Blanche a été critiqué par le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, pour ne pas avoir écourté ses vacances afin d'effectuer une tournée plus tôt en Louisiane. Reproche rejeté par la Maison-Blanche en affirmant que Barack Obama ne s'est pas déplacé plus rapidement en Louisiane parce qu'il avait préféré s'employer à répondre à la crise plutôt que de profiter de l'occasion pour aller prendre des photos. Pour Josh Earnest, porte-parole de la Maison-Blanche, la tentation est grande de faire de la politique et de concentrer sur l'image dans ce genre de drame. Mais les survivants des inondations en Louisiane ne sont pas bien servis par une discussion politique. Ils sont mieux servis par une réponse gouvernementale forte, efficace et bien coordonnée, a-t-il ajouté. Le déluge, qui a laissé 76 cm de pluie sur certaines parties de la Louisiane, est la pire catastrophe naturelle à s'abattre sur l'État depuis l'ouragan Sandy en 2012. Les inondations qui ont suivi le déluge ont entraîné la mort de moins 13 personnes et endommagé plus de 60 000 résidences.
Le vice-président américain Joe Biden, lui, a réaffirmé aujourd'hui l'engagement des États-Unis envers l'OTAN, notamment l'article 5 qui stipule que toute attaque contre un État membre constitue une attaque contre toute l'Alliance Atlantique. John Lindon nous en dit plus.
Le numéro 2 de l'exécutif américain prenait la parole devant des membres de la presse à Riga, capitale de la Lettonie. Le gouvernement américain maintient son engagement à défendre les intérêts de l'OTAN où qu'il se trouve. Washington défendra les pays baltes contre toute agression de la Russie voisine, a dit Joe Biden. Je veux que ce soit clair, absolument clair pour toutes les populations des pays baltes. Nous engageons l'honneur des États-Unis à défendre le traité de l'OTAN et l'article 5. Notre parole est d'or. Nous avons toujours honoré nos engagements car il y va de l'honneur de l'Amérique, a poursuivi le vice-président. M. Biden a minimisé les déclarations du candidat républicain Donald Trump, suggérant que les États-Unis pourraient ne pas défendre automatiquement ses alliés de l'OTAN en cas d'attaque si ses alliés ne remplissent pas toutes leurs obligations financières envers l'organisation. Sa visite à Riga visait donc à rassurer ces jeunes nations, tandis que la Russie semble de plus en plus se montrer menaçante. Demain, il se rend en Turquie avant de prendre part jeudi en Suède à une rencontre sur la crise migratoire en Europe.
Un accord de cessez-le-feu a été conclu ce mardi sous les auspices des responsables militaires russes entre le régime syrien et les forces kurdes après une semaine de combats meurtriers à Asaké dans le nord-est. Selon les responsables kurdes, les forces du régime et les miliciens kurdes du YPG, unité de protection du peuple kurde, vont se retirer de la ville. La ville passera très largement sous le contrôle de la police kurde, tandis que la police gouvernementale sera en charge des édifices publics.
La Turquie va apporter toutes sortes de soutien à l'opération en préparation contre le groupe État islamique dans la localité syrienne de Jarablus, près de la frontière turque. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le ministre des Affaires étrangères turc, Mevlut Cavusoglu. Des centaines de rebelles syriens soutenus par Ankara se préparaient, du côté turc, à une offensive selon des sources rebelles et l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Jarablus est le dernier point de passage contrôlé par l'État islamique à la frontière.
Le Japon a lancé aujourd'hui à l'ONU un ferme appel à la Corée du Nord à s'abstenir de nouvelles provocations au moment où Pyongyang menace de répliquer à des manœuvres militaires américano-sud-coréennes. Le Conseil de sécurité avait adopté en mars les sanctions les plus sévères jamais imposées à Pyongyang à la suite d'un quatrième essai nucléaire effectué en janvier et de tirs de missiles. Mais comme le souligne l'AFP, l'efficacité de ces mesures dépend surtout de la Chine, alliée et principal partenaire économique de la Corée du Nord.
Revenons ici aux États-Unis avec cette bonne nouvelle pour l'économie. La vente de nouvelles maisons a grimpé en juillet à un niveau atteint seulement il y a 9 ans. Selon le département du commerce, l'augmentation par rapport au mois précédent est de 12% et plus de 31% qu'en juillet 2015. Ces chiffres qui dépassent les prédictions des économistes s'expliquent, disent-ils, par la baisse du coût du crédit et l'amélioration du marché de l'emploi.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
Le Maroc a enregistré une baisse de 7% de touristes au premier semestre 2016 par rapport à la même période de l'année 2015, a rapporté l'Observatoire du tourisme marocain. Les deux principaux pôles touristiques du pays restent Marrakech et Agadir, qui ont généré à eux seuls 59% des nuitées, enregistrant toutefois une baisse de 8%. L'augmentation rapide du prix d'un médicament antihistaminique, l'épipène, fréquemment prescrit pour les cas d'allergies sévères et notamment pour les enfants, crée une nouvelle polémique ici aux États-Unis. Selon le New York Times, son prix est passé progressivement de 100 à plus de 600 $ depuis 2007. Contacté par des électeurs mécontents, le sénateur républicain Chuck Grassley a demandé au laboratoire Mylan, qui le commercialise, de justifier cette hausse. Le constructeur automobile allemand Volkswagen a annoncé aujourd'hui avoir trouvé un accord avec deux fournisseurs qui avaient cessé leur livraison, ce qui permettra aux fabricants de la Golf de reprendre progressivement sa production très perturbée. Les différentes parties ont choisi de garder le silence sur le contenu de l'accord. À la Bourse de Francfort, les investisseurs ont salué la résolution du conflit.
Voilà, c'était donc l'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco donc avec Nanit Talani. L'info sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
Coupe de la Confédération, on connaît désormais les quatre clubs qualifiés.
Oui, le Mouloudia Béjaïa s'est octroyé le dernier ticket pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération en battant le Medeama à domicile grâce à un but du Tchadien Morgan Botorangal. Le tout-puissant Mazembe, le club de Lubumbashi qui termine premier de la poule après sa victoire ce mardi face aux Young Africans de Tanzanie 3-1. Dans le groupe B, l'enjeu reste la première place entre le FUS de Rabat et l'Étoile du Sahel. Les Marocains premiers du groupe ne doivent pas perdre ce soir à domicile face aux Tunisiens pour garder leur place. Demain, un autre match, mais sans enjeu, entre le CAC de Marrakech et Al Ahly de Tripoli.
Match de barrage retour de la Ligue des Champions ce mardi.
Monaco et Rome sont bien partis pour se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Après avoir marqué à l'extérieur à l'aller contre respectivement Villarreal et Porto. Mais ils ne doivent pas passer à côté de leur match ce soir. À suivre le programme de ce mardi, l'Apoel Beersheba contre le Celtic de Glasgow, Victoria Plzen contre le Ludogorets, le club bulgare, Monaco contre Villarreal, l'AS Rome contre le FC Porto et le Legia Varsovie contre Dundalk, le club irlandais.
Et demain ?
Manchester City de Pep Guardiola est quant à lui déjà pratiquement qualifié. Après son succès 5-0 en Roumanie contre le Steaua à Bucarest, les autres rencontres, l'Apoel Nicosie contre Copenhague, FC Rostov contre l'Ajax d'Amsterdam, Salzbourg contre le Dynamo Zagreb et le Borussia Mönchengladbach contre les Young Boys de Berne. On rappelle que le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions aura lieu jeudi.
Enfin, le Tour d'Espagne en cyclisme.
Le Français Lilian Calmejan a remporté en costaud la quatrième étape de la Vuelta, disputée sur 163 km entre Betanzos et Sant Andrés de Texido, devant le Colombien Darwin Atapuma de l'équipe BMC. Le Colombien endosse le maillot rouge de leader.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guériac et Timothée Donongmaï. En votre compagnie, place au dossier du jour, première escale, la République démocratique du Congo.
L'appel de l'opposition congolaise à observer une journée ville morte dans l'ensemble du pays a été partiellement suivi à Kinshasa et ignoré dans d'autres grandes villes du pays comme Lubumbashi, Goma ou encore Bukavu. Cet appel avait été lancé par le Rassemblement, coalition de l'opposition, pour réitérer sa demande de récuser le facilitateur de l'Union africaine en RDC, l'ancien premier ministre togolais Edem Kodjo. Nicolas Pineau a joint Martin Fayoulou de Sauvons la RDC.
Non, il n'y a pas de demi-échec, c'est un succès total. La ville morte a été lancée à Kinshasa, seulement Kinshasa. Nous avons lancé cette ville morte il y a 48 heures. Et vous voyez, 48 heures après, Kinshasa a été paralysé. Les gens ne sont pas allés travailler, les marchés ne sont pas ouverts. Et les gens qu'on a vus dans le quartier, ils marchaient dans le quartier, de la ronde dans le quartier. Le gouvernement a essayé de mettre le transport public, le bus. Mais ces bus-là, personne n'était dedans. Donc la ville morte est un succès total. Et je rappelle encore, la ville morte était simple, seulement pour Kinshasa. Donc il n'y avait pas de ville morte à Goma, à Bukavu et ailleurs. Il y a des gens qui ont voulu relayer. Mais nous avons dit qu'aujourd'hui, la ville morte, c'est à Kinshasa. Et nous avons d'autres manifestations qui vont arriver dans les jours à venir.
Dans le même temps, ce mardi, Edem Kodjo, le facilitateur de l'Union africaine, a lancé ses travaux préparatoires pour ce dialogue qu'il souhaite mener avec les différentes parties en cause en RDC. Qu'en pensez-vous ?
On ne reconnaît pas, nous l'avons récusé et nous maintenons cette récusation est irrévocable. Edem Kodjo est incompétent pour traiter le problème du Congo et s'il veut aider Kabila à usurper la constitution, s'il veut aider Kabila à glisser, c'est son problème, mais trouvera le peuple congolais sur son passage. Donc, M. Kodjo, nous le congédons au passé et ça ne nous concerne absolument pas tout ce qu'il fait. Le peuple congolais doit se prendre en charge. Nous nous prenons en charge et nous ne voulons pas que quelqu'un nous impose des choses qui soient contraires à notre constitution.
Les élections n'auront évidemment pas lieu le 19 septembre. La commission électorale a annoncé un délai de 16 à 17 mois pour faire la révision du fichier électoral. Que va-t-il se passer maintenant en RDC ?
C'est une commission électorale irresponsable. Les membres de cette commission, avec son président, ils sont totalement irresponsables et incompétents. Et ils veulent violer la Constitution, mais nous, on ne laissera pas violer la Constitution. L'article 73 impose d'une façon impérative à cette commission de convoquer l'élection présidentielle 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Donc c'est très clair, et ces gens-là violent la Constitution.
Martin Fayoulou de Sauvons la RDC.
Les Gabonais se rendront aux urnes dimanche pour élire leur président. Les deux principaux candidats, le président sortant Ali Bongo Ondimba et son rival Jean Ping, battent campagne à l'intérieur du pays. Tout semble calme pour l'heure, mais les Gabonais craignent le pire le jour de la proclamation des résultats. La plupart ont quitté Libreville et les fonctionnaires se bousculent pour toucher leur salaire avant le scrutin. Éric Manira a joint l'envoyé spécial de VOA Africa Libreville, Idriss Fall.
Ali Bongo est dans son fief d'origine, le Haut-Ogoué, dans le nord. Et Jean Ping était dans l'Ogoué maritime, sa région d'origine hier. Et en principe, il doit remonter vers le nord et qu'on attend en fait le sprint final, tous ces grands meetings dans la capitale, dans les deux prochains jours. Et il y a aussi ces candidats qui sont moins connus, qui passent campagne, mais ils sont moins visibles à l'intérieur de Libreville au plan de l'affichage. Mais Libreville, la capitale, c'est comme une campagne d'affichage à sens unique, si je peux m'exprimer ainsi, parce que partout, il n'y a que des panneaux, des pancartes de Ali Bongo.
Tout est calme à Libreville, pas de signe de tension quelconque.
La suite circulation est beaucoup moins dense que d'habitude à Libreville. La tension, on la sent quand on descend dans cette ville. Il y a beaucoup de policiers. Par exemple, toutes les stations d'essence sont protégées par des soldats. Les militaires sont visibles dans les rues. Et quand on parle avec les habitants de la ville, il y a l'angoisse qui est là, présente, de ce qui va se passer, non pas le jour du scrutin, mais plutôt avec les proclamations des premiers résultats. Il y a beaucoup d'habitants de la capitale qui ont préféré un peu s'éloigner de la ville par mesure de prudence ou peut-être aller voter aussi dans leur ville ou village d'origine. Il y a beaucoup de petits meetings de quartier, mais la plupart du temps, ce sont des partisans de Ali Bongo que je vois en fait battre le pavé ici, quoi. Même les fonctionnaires se bousculent pour percevoir le salaire avant le 27, par crainte de ce qui va se passer après.
Est-ce que les projets de société que vendent les différents candidats correspondent réellement aux attentes des Gabonais?
C'est ça le gros problème de la campagne au Gabon. On a passé beaucoup de temps à faire des invectives et des insultes. L'un dit que l'autre n'est pas Gabonais, il est adopté, il n'est pas adopté. Donc ce qui, du coup, a poussé le débat de fond. Je suis descendu dans certains quartiers populaires, par exemple, et très très pauvres, où Ali Bongo était passé en 2009 pour construire l'unique borne d'eau qui existe là-bas. Et c'est l'un des quartiers populaires les plus grands de Libreville. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de route.
Voilà, c'était Idriss Fall à Kingédé, dans le quartier populaire de Libreville.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Un dossier préoccupant en République centrafricaine, plusieurs personnes accusées de charlatanisme ou de sorcellerie sont souvent battues ou lynchées par la foule, Morgan.
Et cette pratique gagne du terrain, beaucoup plus à l'intérieur du pays, où l'autorité de l'État peine à être rétablie en raison de la crise que le pays a connue, nous dit de Bangui Freeman Sipila.
Entre janvier et août 2016, au moins 110 personnes ont été accusées de sorcellerie ou de pratiques de charlatanisme en République centrafricaine. Ces personnes ont subi des traitements parfois inhumains, arrestations arbitraires, exécutions par des membres des groupes armés, lynchage par la foule ou encore forcées à quitter leur localité. Mi-août, au moins une personne est morte et une trentaine de maisons sont incendiées suite à une scène de jalousie qui a tourné au drame non loin de la ville de Paoua dans le nord-est. La montée de la vindicte populaire, parfois en présence des forces de sécurité dépourvues de moyens, inquiète même à Bangui.
Évidemment, cela nous inquiète. Nous sommes dans la jungle que chacun de nous doit appliquer ce qu'il pense ou bien ce qui s'est laissé emporter par ses sentiments et agir.
Si on prend quelqu'un, soit disant que c'est un sorcier, on a quand même une loi centrafricaine qui est là. Il faut passer la personne à la justice, demander au lieu de faire des lois personnelles. Ça, je vois ça, c'est pas du tout normal.
Je pense qu'avec cette montée, il est temps qu'on puisse arrêter cette pratique parce que c'est pas bien de faire la justice à son niveau.
Pour l'ACAT, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture et de la peine de mort, l'absence de la justice légale a laissé libre cours à la vindicte populaire. Son président, l'avocat Guy-Antoine Dangavo, appelle à des mesures judiciaires contre les auteurs de ces actes.
Nous pensons qu'il y a une justice légale, une justice institutionnelle, et donc c'est l'absence de la justice à des endroits qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nos concitoyens pensent que le meilleur moyen, c'est de faire justice soi-même. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de situation, nous ne pouvons pas croiser les bras. Pour notre part, il faut que les autorités prennent à cœur cette situation pour mettre la main sur les auteurs de ces faits et les traduire évidemment en justice. Puisque la tendance est aujourd'hui à la hausse et on constate que dans la moitié de l'arrière-pays, ces faits sont récurrents.
Le gouvernement, tout aussi conscient de cette situation, rappelle que des dispositions sont déjà prises pour que les auteurs des actes de justice populaire soient sanctionnés en conformité à la loi. Flavien Mbata, ministre centrafricain de la Justice.
Les auteurs de ces cas de justice populaire doivent répondre de leurs actes devant la loi et ce, en tenant compte des dispositions constitutionnelles. Je suis en train donc d'instruire par circulaire tous les procureurs généraux et tous les procureurs de la République de notre pays, tous les OPJ de veiller dans leurs différents ressorts au strict respect de la loi fondamentale de notre pays ainsi que du code pénal.
Le week-end dernier, trois femmes accusées de sorcellerie, frappées, ligotées et jetées dans la rivière Ouham dans le nord du pays, ont surpris leurs bourreaux. Elles ont réussi à s'en tirer saines et sauves. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Rio 2016, c'est fini, les Jeux sont faits. Le continent africain a décroché au total 45 médailles. C'est historique, mais cette question revient sur le tapis. L'Afrique fait-elle assez pour ses sportifs? L'athlétisme, par exemple, est-il bien géré pour encourager les nombreux talents dans les 54 pays africains? Quelle la solution pour une meilleure moisson de médailles dans les grandes compétitions internationales? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Présidentielle américaine 2016, les républicains intensifient leurs attaques contre la démocrate Hillary Clinton suite à un nouveau rebondissement dans l'affaire de ses emails du temps où elle était secrétaire d'État. Ils remettent aussi en cause sa santé et ses capacités physiques à diriger les États-Unis. Des critiques que Mme Clinton rejette en bloc. Le point avec vous, Chérubin Dorsil.
En réponse à une requête judiciaire introduite par l'ONG conservatrice Judicial Watch, le département d'État est en train de passer en revue près de 15 000 emails de Hillary Clinton retrouvés par le FBI dans le cadre de son enquête et qui n'avaient pas été précédemment rendus publics. Un premier lot pourrait être publié d'ici à la mi-novembre, ont fait savoir les avocats du département d'État. Selon le porte-parole de l'équipe de campagne de la candidate démocrate, Mme Clinton n'a effacé de son serveur privé que des emails privés et remis au département d'État en 2014, tous ceux liés au travail. Mais selon les républicains, de nouveaux emails montrent que des étrangers ayant fait des dons à la Fondation Clinton ont obtenu un traitement préférentiel au département d'État du temps où Mme Clinton en était la patronne. Des législateurs républicains ont convoqué des responsables de trois compagnies ayant fabriqué le serveur privé utilisé par Mme Clinton ou qui en ont assuré la maintenance. Une décision rendue nécessaire par le refus de ces compagnies de répondre volontairement aux questions relatives aux emails de la candidate démocrate.
Chérubin, Mme Clinton a de son côté dénoncé les allégations des républicains relatives à sa santé.
Timothée, il faut dire que depuis quelque temps, les républicains multiplient les déclarations mettant en cause l'état de santé de la candidate démocrate. Elle n'a pas l'endurance physique et mentale pour être présidente, ne cesse de répéter son adversaire républicain Donald Trump. L'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, farouche partisan de M. Trump, pense que Hillary Clinton est fatiguée. Allez en ligne et tapez Hillary Clinton, maladie, et regardez les vidéos, avait-il lancé dans un entretien à la chaîne de télévision Fox. Tout cela relève de la stratégie farfelue du candidat républicain Donald Trump et ne concerne en rien les questions qui sont importantes pour les électeurs, a déclaré la candidate démocrate de son côté. J'ai l'impression que cette campagne est entrée dans un monde alternatif et je dois entrer dans cet univers alternatif pour répondre à des questions du genre « Suis-je vivante ? Combien de temps ai-je encore à vivre ?» a lancé Hillary Clinton récemment sur la chaîne de télévision ABC. Son médecin personnel, Lisa Bardak, que cite l'agence France Presse, assure de son côté que Mme Clinton est en excellente condition physique et apte à servir en tant que présidente des États-Unis.
Merci, Chérubin Dorsil.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Josèle Morissin a dirigé la mise en onde avec l'assistante de Souleyman Tarawale à la console. Présentation Morgane Guériac et Timothée Donangmaï.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos près d'1 700 000 fans sur Facebook. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'informations 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.